Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il ne faut pas que nous nous en tenions au monde des hommes pour connaître les œuvres de Dieu. Dieu a fait au-dessus de nous le monde des anges, et nous sommes impliqués, nous sommes liés. Je vous ai fait un sermon, les anges sont nos modèles. Étant donné la chute des mauvais anges dont nous avons parlé lors du dernier sermon il y a 15 jours, les démons furent punis, ils furent doublement punis, d'une première manière en étant envoyés en enfer, que Dieu crée pour eux afin de les punir, et deuxièmement, de façon surprenante, mais ça c'est la manière de faire de Dieu, Dieu veut les obliger à lui rendre service à lui, Dieu. Et là, les démons sont furieux. Et donc, pour que les démons ne perdent pas leur utilité, il va leur donner l'air, l'atmosphère, si vous voulez, qui nous entoure, en les autorisant à lutter contre nous. Et vous imaginez ce que peut être une lutte de démons contre les hommes et une lutte de démons contre Dieu qu'ils ont en haine. C'est une lutte inexpiable. Je vous ai dit que Dieu les punissait en les obligeant à le servir. Comment cela ? Parce que les démons sont aveuglés. Ils sont tellement aveuglés par la haine que du moment que Dieu leur ouvre, leur donne l'atmosphère autour de nous pour nous mettre à l'épreuve, eux sont persuadés qu'ils vont réussir dans cette lutte à gagner contre Dieu. Et c'est vrai que, hélas, ils gagnent beaucoup d'âmes. Mais ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que, à la fin, le triomphe de Dieu sur les démons sera tel qu'ils seront bien plus punis par cet écrasement par Dieu qu'ils n'ont eu de joie, de fausse joie bien sûr, à faire tomber un grand nombre d'hommes en enfer. Cet écrasement évidemment se fera par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils seront humiliés, furieux d'être vaincus par un homme, même si cet homme est Dieu, bien entendu, mais que Dieu ait utilisé la nature humaine pour les vaincre, eux qui sont si puissants et tellement au-dessus de la nature humaine. Ils seront furieux d'avoir été vaincus par la croix, furieux d'avoir été vaincus par le piège qu'ils ont tendu à Dieu et qui se retourne contre eux, à savoir que ce sont eux qui ont pousser les Juifs et les Romains à crucifier notre Seigneur et que cela se retourne contre eux. Dans cette lutte, nous sommes considérablement aidés, renforcés par les vertus, par les dons du Saint-Esprit et puis par la providence divine. C'est-à-dire que Dieu fait de nous des combattants forts, mais également qu'il veille sur nous de l'extérieur. Or, un des moyens qu'il prend pour veiller sur nous, ce sont les bons anges. Or, je me rends compte que si beaucoup de gens, beaucoup de fidèles, ne connaissent pas le monde angélique ou le connaissent mal, ceux qui le connaissent font encore attention à la puissance des démons qui est connue, mais très peu de chrétiens font attention effectivement à la puissance des anges. Bien sûr, nous avons l'ange gardien, et on nous en parle, et nous savons qu'il nous protège, mais il n'y a pas que l'ange gardien. Toute la cour céleste est en guerre contre la cour infernale du démon, contre les puissances et les armées infernales du démon. Je pourrais tout à fait logiquement vous parler de cette lutte des démons dans le monde. Avec Saint Ignace, vous montrer quels sont ses complices, quels sont ses moyens, les moyens qu'il met en œuvre. Je pourrais vous parler également du complot, car il est évident qu'il y a un complot, puisqu'il y a une lutte entre les deux cités. Inutile de vous dire que le démon, tout en étant aveuglé, ce qui le rend bête, est en même temps très intelligent, et qu'il ne part pas à la guerre sans plan de bataille. Je vous recommande la lecture du livre de Volkov, « Le complot ». Ce n'est pas que Volkov soit un saint, je pense que cette lecture est réservée à des adultes. Ce n'est pas un livre de piété, mais justement, cela montre bien ce qu'est le complot du démon au milieu des hommes et comment les hommes entrent dans ce complot. Alors n'ayez pas de scrupules, mes bien chers frères, à parler d'un complot. Il faut en parler intelligemment, bien sûr, mais nos ennemis voudraient nous faire taire et vous verrez que bientôt, le mot « complot » sera un mot interdit, comme le mot « juif » est un mot interdit, parce que il ne sera pas permis de dénoncer l'œuvre du démon. Mais je préfère commencer en vous parlant d'abord de la puissance des anges, les anges qui sont les ministres de Dieu, et Dieu les envoie pour combattre à notre service, pour nous aider dans la lutte. C'est tellement important que Dieu a suscité Tobie Père et Tobie Fils avec l'archange Raphaël, et que le Saint-Esprit a voulu que leur histoire fût écrite dans la Bible. Cette histoire est donc inspirée. Elle nous montre deux choses. D'abord, l'intervention des anges dans notre vie et les conditions pour que nous puissions bénéficier de cette intervention. L'histoire se passe lors de la première déportation des Juifs du nord de la Palestine en Mésopotamie, dans le nord de la Mésopotamie, et Tobie est vraiment un modèle de vertu chrétienne. C'est important de le noter parce que Dieu n'envoie ses anges habituellement qu'à ceux qui méritent leur aide. Certes, le bon Dieu est tellement bon qu'il envoie souvent ses anges à des pécheurs pour qu'ils ne tombent pas en enfer et qu'ils aient encore le temps de se convertir, notamment l'ange gardien. Il envoie ses anges à des hommes auprès de qui il veut faire des miracles pour les convertir. Mais cela, c'est la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et on ne provoque pas la miséricorde de Dieu. Provoquer la miséricorde, c'est tenter Dieu, c'est un très grave péché. Qu'il y ait beaucoup de pécheurs dont Dieu a pitié, c'est un fait. Mais qu'il faille nous mettre, ou que cela nous autorise à nous mettre dans la situation des pécheurs pour pouvoir bénéficier ensuite de la miséricorde, ça s'appelle tenter Dieu, et c'est un péché très, très grave. J'insiste parce que beaucoup de chrétiens de toujours, beaucoup de ceux qui ont reçu la foi dans le berceau, commettent ce péché de tenter Dieu et croient qu'ils ont un droit à la protection divine et ne font pas attention ou pas assez attention à la sainteté de leur conduite. Donc Tobie est un homme saint. Il est saint depuis sa jeunesse. Il ne cherche pas à s'amuser avec les jeunes de son âge, mais au contraire, il fait des pèlerinages à Jérusalem. Et parvenu à l'âge adulte, il se marie avec une femme qui s'appelle Anne, un nom très commun chez les Juifs. Et là, il fait bien attention à ne jamais se mêler au culte des idoles et à ne jamais suivre ceux qui rendent un culte aux idoles. Il a un fils, Tobie, qui va être son fils unique. auquel il enseigne également à craindre Dieu. Je vous ferai peut-être un sermon un de ces jours sur la crainte de Dieu, l'importance de la crainte de Dieu. Mais Dieu veut punir les Juifs qui lui ont été infidèles, et une grande partie du peuple juif est déportée en Assyrie. Là, Tobie console ses concitoyens captifs, et il se comporte avec tant de vertu, tant d'honnêteté, de loyauté, que le gouvernement, l'empereur Salmanassar, c'est-à-dire son gouvernement, donne à Tobie la liberté d'aller et venir, et même de faire ce qu'il veut. Tobie en profite largement pour secourir ses concitoyens. Puis vient le temps de l'épreuve. Salmanassar a un fils qui va persécuter les Hébreux et les mettre à mort au milieu même de son royaume. Il ne se contente pas de les avoir réduits en esclavage. Là, Tobie se trouve dénué de tout, mais il reste fidèle. Et finalement, parce que le fils de Salmanassar est mis à mort, c'était un tyran terrible, Tobie retrouve tous ses biens, sa maison et tous ses biens. Il n'est pas particulièrement riche, il vit simplement honnêtement. Et là, l'Écriture sainte insiste sur les œuvres de miséricorde de Tobie. Il distribue de l'argent aux pauvres, il répartit ses offrandes intelligemment, il donne le vêtement à ceux qui sont nus, et puis il enterre les morts. Et il faut que vous lisiez le livre de Tobie, hein. Ça vaut beaucoup mieux que mon histoire. C'est très frais, c'est comme une vie de saint, profonde et fraîche. Tobie est à table. Ben oui, c'est un homme comme les autres. Il est avec des amis. Et un de ses amis qui arrive, qui est invité, lui dit « Ah, sur le chemin, j'ai vu que les hommes du tyran ont mis un des nôtres à mort. » Il est là, sur la place publique. Tobie, aussitôt, se lève, sans prendre de repas, il part à jeun, il charge le mort, le martyr, enfin le persécuté, sur ses épaules, il l'emmène chez lui dans son jardin afin de pouvoir l'enterrer à la nuit, parce qu'il a beau avoir toute liberté, on comprend d'après le texte de l'Écriture sainte qu'il n'est pas permis d'enterrer les morts. Et d'ailleurs, Tobie fait tellement de bien qu'il finit par être lui-même condamné à mort et recherché par la police. Malgré tout, il continue ses œuvres de miséricorde, et tous ses amis lui disent « Mais Tobie, tu es fou, tu es recherché par la police, tu es condamné à mort, et voilà que maintenant tu vas te montrer en plein jour, en allant chercher ceux qui ont été mis à mort, qui donc déplaisaient à l'administration, au gouvernement. » Et Tobie leur dit « Mais taisez-vous, on doit faire les œuvres de miséricorde. » Comment le bon Dieu le récompense-t-il ? Le bon Dieu le récompense en le rendant aveugle. Eh oui. L'archange dira à la fin du livre, parce que tu étais agréable à Dieu, parce que tu étais agréable à Dieu, il était nécessaire que la tentation t'éprouve. Je vous ai déjà parlé de l'épreuve, hein. Faire la preuve. Éprouver, ça ne veut pas dire faire du mal ou faire tomber dans le péché. Éprouver, ça veut dire faire la preuve. Un examen, qui est une épreuve, fait la preuve de la qualité de l'étudiant. Ben, c'est sûr que celui qui n'est pas doué, ça fait aussi la preuve de sa nullité. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire la preuve de ceux qui sont bons. Donc, Tobie rentre fatigué d'une de ses courses. Il se couche avant d'arriver chez lui. Il est sous un petit auvent. Il y a là un oiseau qui fait tomber une fiente, la fiente tombe dans les yeux de Tobie, et voilà notre Tobie qui est aveugle. Alors sa femme n'y tient plus, ça suffit, il y en a assez, voilà comment tu es récompensé, c'était bien la peine, laisse tomber tout ça. L'Écriture sainte nous rapporte un autre trait assez beau de Tobie. Une fois, sa femme trouve, dehors, une chèvre, je sais plus. Cette chèvre, ou plutôt ce bouc, semble être abandonné. Elle se dit que cela va arrondir les fins de mois, parce qu'elle est la seule maintenant à travailler pour faire vivre tout le monde. Elle ramène le bouc à la maison. Toby l'entend. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Ah, oh, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un bouc. Il était à personne, alors je l'ai apporté. À personne, dit Toby. Tu vas le rapporter là où tu l'as pris, oui. Il est assez probable qu'il est à quelqu'un, et puis même s'il est à personne, vaut mieux que nous ne bénéficions pas d'un bouc que nous pourrions légitimement prendre, plutôt que de risquer de voler cette bête à son légitime propriétaire. Alors là, la femme est encore plus en colère. Toby va faire une prière à Dieu. C'est une prière très très belle, parce que il demande avec infiniment de délicatesse. « Seigneur, vous ferez comme vous voulez, mais moi j'aimerais bien que vous me retiriez de ce monde méchant. Tout ce que vous faites est juste, c'est miséricorde et c'est vrai. Mais mon Dieu, souvenez-vous de moi. Ne tirez pas vengeance de mes péchés. Péché, c'est un grand saint. Bon, évidemment, même tous les grands saints ont des péchés, bien entendu. Ne vous rappelez pas mes fautes. Il est vrai que notre nation a péché. Il est vrai que nous tous, nous sommes coupables. Mais vous nous punissiez bien, là. Vous nous humiliez au milieu de toutes les nations. Alors, et je vous lis le texte même de la prière, alors maintenant, mon Dieu, faites avec moi comme il vous plaît, selon votre volonté. Et commandez que mon esprit retrouve la paix. Il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. Pendant ce temps, il y avait, nettement plus au nord, une femme qui était la cousine peut-être un peu éloignée, enfin qui était la cousine des deux Toby, et qui était profondément dans l'affliction elle aussi. Son père l'avait mariée, mais l'homme, son mari, était possédé par l'impureté, et le soir des noces, il aurait fait des choses vraiment pas bien avec son épouse, parce que tout n'est pas permis entre époux, n'est-ce pas, hein? Je ne vais pas vous faire un serment sur la chasteté, et tout n'est pas permis entre époux. Or, Sarah, cette femme, cette cousine de Toby, était une femme pure, chaste, craignant Dieu. Et donc Dieu ne va pas permettre qu'elle soit souillée par son mari, et dès que celui-ci approche Sarah, le bon Dieu permet que le démon de l'impureté étrangle sa victime, étrangle cet homme. Vous allez me dire, mais pourquoi le démon étrangle-t-il cet homme qui est son complice? Mais parce que c'est le but. Il le fait tomber dans le péché, quand il est bien dans le péché, il cherche à le faire mourir. Très souvent, Dieu ne le permet pas, et là, Dieu l'a permis. Donc, le lendemain des noces, on creuse une sépulture, et on y met le pauvre homme. Sarah sera mariée par son père une deuxième fois, le deuxième mari ne vaut pas mieux, donc le démon de l'impureté reçoit l'autorisation de l'étrangler de nouveau, et on en tire le deuxième mari, et ainsi le troisième qui ne valait pas mieux, puis le quatrième qui ne valait pas mieux, puis le cinquième qui ne valait pas mieux, puis le sixième qui ne valait pas mieux, puis le septième qui ne valait pas mieux. Alors au bout de sept maris étranglés, et que chaque matin, le lendemain des noces, il faut enterrer, alors ça commence à jaser. Une servante accuse Sarah d'avoir tué elle-même ses maris, ce qui est stupide. Et alors, Sarah, elle aussi, va fermenter sa prière vers Dieu. Alors, une prière qui est encore pleine de délicatesse, là aussi. « Peut-être, dit-elle à Dieu, mes maris n'étaient-ils pas dignes de moi? Peut-être était-ce moi qui n'étais pas digne d'eux? Enfin, il semblerait plutôt que ce soit eux qui n'étaient pas dignes de moi, puisque c'est eux que vous avez voulu mettre à mort. » Elle dit, « Mais je ne peux pas pénétrer vos conseils, c'est-à-dire vos délibérations, votre sagesse. C'est très beau, ça. Au lieu de juger Dieu, voyez, on ne peut pas pénétrer la sagesse de Dieu. Ce qui est certain, c'est que pour recevoir la couronne, il faut avoir été éprouvé dans la tribulation. Et puis, ce qui est certain, c'est que après toutes les épreuves, vous donnez la tranquillité, vous donnez la paix. Après les larmes, vous donnez la joie. Alors que votre nom, Dieu, soit béni dans tous les siècles. Cependant, elle aussi avait commencé sa prière en demandant d'être retirée du monde des vivants, et à moins que Dieu ait une autre solution pour faire cesser l'épreuve. Dieu entend la prière de l'un et de l'autre, et il charge l'archange Raphaël de porter cette prière devant lui, et il va charger l'archange Raphaël de secourir ces deux bons, fidèles chrétiens qu'il a mis dans l'épreuve. Je suis obligé de m'arrêter ici, parce que il y en a encore pour une demi-heure. J'espérais tout vous traiter en une fois, mais c'est pas possible. Vous avez largement de quoi méditer, là, sur cette bonté de Dieu, sur cette qualité de Tobie et de Sarah. Je vous rappelle que demain, nous fêtons le cœur immaculé de Marie, Notre-Dame de Fatima, qui, elle aussi, nous annonce les épreuves dues à nos péchés, les châtiments dus à nos péchés, mais qui nous a promis, qui a promis à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors faisons comme Tobie et Sarah, ne fuyons pas l'épreuve, n'ayons pas peur de l'épreuve, au contraire, dans l'épreuve, continuons toutes les œuvres de miséricorde, continuons toutes les œuvres de piété, faisons monter notre prière vers Dieu avec la certitude que, après les larmes, Dieu nous donnera la joie et la Sainte Vierge également. Disons qu'il nous donnera la joie par Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.